Voilà. Donc ça, c'est un globe terrestre qui récapitulait ce qu'on savait en 1492, au moment où Christophe Colomb a découvert l'Amérique avec son équipe. Et c'est un très bel objet qui se trouve à Nuremberg et qui a été fait par quelqu'un qui s'appelait Bernheim, et qui était un géographe et un explorateur lui-même, un aventurier. Et bien sûr, ça tourne dans le mauvais sens par rapport à la rotation de la Terre habituelle, mais le fait, je pense que c'est un très bon objet qui porte à la méditation, parce que si vous l'observez bien, il manque quelque chose. Vous voyez, on a le Japon qui est là, et puis il n'y a rien. Et puis on a l'Europe. Donc c'est la manière dont on se représentait le vivant juste au moment. C'est vraiment la même année. Ce truc a été confectionné la même année que la découverte de l'Amérique. Et je crois que ça doit nous amener en tant que scientifique, à une certaine humilité, parce que on doit considérer que vis-à-vis du vivant, on est exactement dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que jusqu'ici, on s'est dit que la biologie allait consister à rendre compte de ce que c'était que le vivant, hein. Et comme l'a fait remarquer Michel juste avant, il y a de très intéressants phénomènes qu'on s'explique très très mal, comme par exemple l'invention de tous les procédés qu'on trouve dans le vivant, hein. L'œil, bien sûr, mais il y a une multitude de dispositifs, de procédés chimiques, tous aussi surprenants les uns que les autres. En fait, on n'a pas une bonne théorie pour expliquer tout ça. Donc, il est clair que si on doit partir des lois fondamentales de la physique et expliquer le fonctionnement d'une langouste, on sent que, et c'est un programme qui est programme épistémologique très intéressant lui-même, mais on sent qu'on va avoir peut-être certaines ruptures de continuité qui ont déjà été, bien sûr, détectées. Et peut-être que ce n'est pas la voie la plus efficace pour progresser. Pourquoi? Parce que le vivant nous est intelligible comme si c'était un dispositif qui avait été inventé et pas quelque chose qu'on avait découvert ou qui change de forme comme un nuage ou quelque chose comme ça. Donc bien sûr, la démarche scientifique concernant les organismes vivants, les espèces et les écosystèmes consiste à dire on voudrait un ensemble minimum de règles du jeu, de quoi on va pouvoir inférer, sinon déduire, tout ce qu'on observe dans la nature. Mais peut-être que ça prendra beaucoup trop de temps et que, au lieu d'aborder ça comme Homo sapiens, il faudrait en revenir peut-être un peu à Homo faber pour avoir une bonne chance d'expliquer, de comprendre le vivant. Et en tout cas, il est très frappant qu'au tout début de la biologie moléculaire, il faut voir que des gens comme Francis Crick et tous les physiciens autour de lui, qui sont les pères fondateurs de la biologie moléculaire, pas Watson, mais Crick, je pense vraiment à Crick, étaient des gens qui avaient participé à l'invention et à la mise au point du radar, de l'ordinateur, ces choses-là, des réacteurs nucléaires. Donc c'était vraiment une démarche de construction. Et des termes comme opéron, comme répliquant, tous ces termes-là, qui ont vraiment donné des étapes conceptuelles extrêmement importantes dans la biologie moléculaire, sont des mots d'ingénieur, sont pas des mots de naturaliste. Bon, j'étais un peu long avec ça et je sais pas comment l'arrêter là. Donc, on n'en est pas encore au stade où simplement. Donc, je voudrais passer à. Très bien, merci. Et donc là, j'appuie sur les flèches, j'imagine. Voilà. Je voudrais vous parler de xénobiologie, c'est-à-dire que c'est d'une démarche qui aborde radicalement la question de la création en biologie en disant. On va se servir de, évidemment, ce sont des êtres vivants capables de se reproduire, d'évoluer, de convertir des composés chimiques, etc. C'est de ça qu'il s'agit, mais on ne va pas trop s'embarrasser avec ce que la nature nous a donné dans l'arche de Noé, ni trop de ce que pensent les structuralistes. Souvent, on a observé de manière empirique que si on croit les structuralistes, évidemment, c'est très très intéressant d'avoir un guidage par les structuralistes, mais à un moment, il faut s'arrêter de leur faire confiance, parce que quelquefois, il faut vraiment transgresser et dire,
dans cette hélice alpha, je vais mettre deux prolines et on verra bien. Donc en fait, dans cette démarche de construction, on va plutôt se demander quels sont les principes suivis et quelles sont les démarches et se servir de modélisation et en particulier de chimie, mais sans trop se fier à ce que la nature nous a déjà offert, parce que l'enjeu. Ah oui, non, non, je vais tout de suite commencer par évacuer notre ami Gottfried. Je crois que ce qui est en train de se passer en biologie depuis le début du 21e siècle, c'est que Leibniz revient très fort. Parce que Leibniz, c'était quelqu'un, vous vous rappelez, il est surtout connu dans les milieux scientifiques comme le rival de Newton, hein, avec la controverse qu'on connaît. Mais en fait, Leibniz était beaucoup plus que ça, parce que Leibniz, c'est vraiment l'esprit qui a conçu la possibilité des mondes différents et des règles combinatoires qui sont sous-jacents à l'organisation de ces mondes et leur description. Hein. On considère Leibniz comme le premier informaticien, si vous voulez, parce qu'il a parlé d'une caractéristique universelle par laquelle on pourrait décrire toute idée, toute pensée, on pourrait l'articuler, et ça, c'est devenu l'informatique comme on sait. Et en fait, dans pas trop longtemps, enfin, il y a de plus en plus de gens qui pensent que Leibniz sera vu aussi comme un père fondateur de la biologie synthétique, puisque si vous pensez à la table de Mendeleïev ou les règles de chimie et tout ça, c'est très leibnizien. Donc en fait, une façon de décrire Back to the Future, si vous voulez, c'est avant Darwin. Hein, Darwin, c'est vraiment la démarche déductive qui nous a amené à considérer que la physique était présidée au processus de l'évolution. Mais Leibniz est plus profond d'une certaine manière parce qu'il nous en donne la syntaxe. Et c'est sans doute dans les langages de l'informatique de la combinatoire, des mathématiques, qu'on comprendra la création dans la biologie. Et beaucoup moins que dans le langage de l'évolution qui, en fait, ne nous a jusqu'à présent rien expliqué. Simplement la propagation des inventions, mais pas les inventions. Donc, en fait, il y a une phrase, oui, une phrase un peu fétiche, une phrase culte de Leibniz qui n'y allait jamais avec le dos de la cuillère. C'est tout ce qui est possible, tout ce qu'il est possible de concevoir demande à exister, demande à s'incarner. Et je crois que c'est un assez bon motto pour la biologie synthétique. Donc, en fait, je ne vais pas vous parler de biologie synthétique et des aspects utilitaires. D'abord parce que sans doute on vous en a rebattu les oreilles, qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans que vous soyez exposé au merveilleux programme. Promis par la biologie de synthèse, pour vous faire des fioul gratuits, vous guérir du cancer, vous faire un cerveau 2.0, etc. Je voudrais vous parler de xénobiologie, c'est-à-dire life as we do not know it, c'est-à-dire les formes de vie telles qu'on ne les connaît pas et telles qu'on est susceptible de les engendrer, de les faire évoluer, de les étudier, etc. Donc, de manière très très simple, la xénobiologie, bon, ça vient du grec xénos, qui veut dire l'ami de l'extérieur. C'est pas comme dans xénophobe, hein. C'est quelqu'un qui est dans le monde extérieur, mais qui est favorable en grec. Et donc, ce dont la xénobiologie s'occupe, c'est d'engendrer, de faire évoluer, d'étudier, d'exploiter industriellement les formes de vie déviant de toutes celles qu'on connaît dans la nature. Donc, ça, comme vous le savez, une façon un peu caricaturale, mais très leibnizienne, de décrire la biologie, c'est de dire que la vie, c'est de la chimie procédurale. Quand on fabrique un oligo, un morceau d'ADN, en fait, c'est de la chimie procédurale. On a des électrovannes qui s'ouvrent pour laisser passer des AT, etc. Mais en fait, il y a une parenté, au moins abstraite, dans la manière dont on fabrique un synthétiseur d'oligo, même s'il n'y a pas d'électrovanne dans les ribosomes, avec les transferts d'informations biologiques. Et donc, la vie. Donc, j'y vais par petits slogans. Je ne vais pas du tout entrer dans des détails expérimentaux, parce que j'ai vu qu'on n'avait qu'un quart d'heure questions comprises, non, c'est ça? Ou 20 minutes questions comprises. Et donc, je vais y aller par slogan le plus vite possible. Donc, ça fait vous passer ça, parce que j'ai. Alors, le prochain argument, c'est. Je crois que Michel y a fait allusion tout à l'heure, la vie est intrinsèquement imparfaite. C'est-à-dire que, comme il l'a très bien dit tout à l'heure, puisque l'optimisation et la lutte pour la survie se fait à l'instant T, elle ne se fait pas pour l'amélioration d'un procédé qui prendrait 1 million d'années. Il faut être le vainqueur tout de suite. Donc en informatique, c'est très bien connu parce que ça s'appelle les algorithmes gourmands. Par exemple, si vous avez des carrés, exemple type, c'est vous avez des carrés solides et vous devez couvrir avec un maximum de carré, un maximum de surface du carré pointillé. Et si vous faites ça en prenant le plus grand, puis le deuxième plus grand, etc., ça s'appelle un algorithme gourmand de faire ça, et ça n'amène pas à la solution optimale. D'accord ? Or, c'est exactement ce que fait la sélection darwinienne. Elle va dire, je veux avoir les plus grandes ailes tout de suite, etc. Et donc, en fait, si on considère que l'évolution des espèces est un processus d'optimisation gourmand, dans ce cas-là, on est forcé, on n'a pas le choix, et qu'il n'y a pas d'intelligent design derrière tout ça, on est forcé, presque un théorème, d'admettre que ça en sera un. Toutes les solutions trouvées par les êtres vivants au cours de l'évolution, considérées comme un calcul au sens leibnizien du terme, ce sont des solutions imparfaites. Et partant de là, si les solutions sont imparfaites, on va peut-être se demander, savoir si on pourrait en créer de meilleures, même si on n'a pas la prétention d'aller vers un optimum global. Et dans ce cas-là, comment on va faire ? Quelles sont les meilleures heuristiques en génétique, etc. Donc, la vie est intrinsèquement imparfaite. J'insiste pas là-dessus, s'il y a des questions, j'adore discuter ça avec des naturalistes, parce que à chaque fois que j'allume la télévision, on m'explique que la biodiversité est parfaite, omnipotente et omnisciente, et je crois que c'est complètement faux. Donc, j'aurai pas le temps non plus d'entrer dans les détails de la chimie là, mais je vais passer à un autre slogan peut-être. Voilà. Il est beaucoup plus facile de faire évoluer des traits artificiels que d'expliquer l'apparition de traits naturels. Alors ça, on le sait depuis qu'on fait de la bière et du fromage et qu'on domestique les espèces. Pour faire un charolais, ce n'est pas la peine d'avoir fait du génie génétique. D'accord ? Et ce n'est plus un auroch. Et le charolais, il est heureux. Il n'est pas forcément... Enfin, pendant la plupart du temps, il est heureux tant qu'il est dans les champs. Et donc, en fait, on sait faire des créatures artificielles heureuses. Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête quand elles seront faites avec du... en incorporant du silicium en plus des autres éléments, etc. Donc, mais ça, c'est très important parce que je sais que jusqu'au XXe siècle, je suis sûr que Michel sera d'accord. Moi, j'ai entendu, tant que j'étais à l'Institut Pasteur, pourquoi est-ce que tu veux déformer la vie ? On n'a rien compris encore, tu te mettras à la déformer une fois qu'on aura tout compris. Bon, alors déjà, ça reporte ça à des calendes grecques. Et deuxièmement, c'est faux, c'est une idée complètement fausse. On peut se mettre à aller dans... vraiment à faire du radicalement neuf dans le vivant, avec des moyens génétiques rudimentaires même, sans avoir à tout expliquer. Bon, et alors une autre façon de penser à la xénobiologie, je trouve qu'elle est très parlante celle-là, c'est de dire qu'en fait, l'astronautique sert l'astronomie. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on fait bien mieux de l'astronomie maintenant qu'on envoie des satellites artificiels ou des sondes dans tout le système solaire. Donc l'astronautique nous a aidé à avoir une bonne représentation des astres et de tous leurs mouvements, etc. Mais l'astronautique n'est pas l'astronomie, de même que l'astronomie n'est pas l'astronautique. Donc l'astronomie, c'est une discipline d'accumulation des connaissances. L'astronautique, c'est ça, ce n'est pas seulement ça. C'est une discipline qui consiste à lancer des satellites artificiels et des choses comme ça. Et je crois qu'une bonne façon de penser à la xénobiologie et à la biologie, disons, c'est partie de la biologie synthétique qui s'intéresse à l'évolution, c'est de voir ça comme une sorte d'astronautique. Et ça va nous aider à comprendre le vivant, exactement comme les sondes nous aident à les sondes spatiales nous aident à comprendre Jupiter. Donc, si on pense à ça en termes de navigation, qui est une bonne métaphore là-dedans, c'est de se dire, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais c'est que, considéré par Leibniz, à la gauche, à la droite du père, si on considère l'ensemble du biochemical space, ça s'appelle, c'est-à-dire l'ensemble des configurations chimiques qui sont capables de se reproduire dans des êtres vivants, c'est le cercle noir. Un jour, si on fait assez d'informatique, de modélisation, de physique, on est assez interdisciplinaire, etc., on aura tout un ensemble de le cercle bleu, de ce qu'on peut concevoir de manière intelligente comme configuration capable de vivre et d'évoluer. Et puis, on considérera le cercle rouge, dont on ne sait pas exactement quelle taille il a par rapport aux deux autres, qui est ce qui a évolué spontanément. Et nous-mêmes, toute la création qu'on connaît, peut-être un jour ce qu'il y a sur les exoplanètes, on est amené à se dire que toutes ces créatures-là ont évolué spontanément à partir d'ingrédients chimiques, hein. Et donc, bien entendu, les règles d'évolution, d'organisation, tout ça sont intéressantes, mais il y a tout un ensemble, hein, tout ce qui n'est pas dans le complément là, tout ce qui n'est pas dans le cercle rouge et qui est dans le cercle bleu, tout ça c'est l'objet de la xénobiologie. Et la xénobiologie, c'est la navigation par tous les moyens possibles, hein, en synthétisant tous les oligonucléotides que vous voulez et en faisant, en disposant de toutes les capacités de fermentation et de propagation des êtres vivants que vous voulez. En partant, là je vous parle des organismes dont on va partir qui sont déjà vivants. Alors bien entendu, il faudrait rajouter peut-être une petite trajectoire partant d'ailleurs, mais qui ne partirait pas de quelque chose qui a déjà évolué spontanément sur la Terre. Et il est clair que la communauté scientifique progresse à grands pas. Hein. Il faut avoir à l'œil les laboratoires de Jerry Joyce au Scripps à San Diego et celui de Jack Shostak à Boston. Il est clair que maintenant c'est une question d'années qu'on aura des... Il y a déjà des systèmes capables de proliférer, ils ne sont pas encore vraiment capables d'évoluer dans le labo de Joyce, mais on va voir des molécules d'ARN ou d'acide nucléique pas trop lointain de l'ARN capables de se répliquer. On aura très 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 bientôt, on voit émerger des ARN. Il y a aussi, j'aurais dû mentionner le labo de Philippe Oliguer aussi au MRC à Cambridge en Angleterre. On voit advenir des RNA réplicases capables de fabriquer de l'ARN et de se répliquer elles-mêmes. Pardon. La biotechnologie, ça a consisté à bricoler. Hein. Donc vous vous rappelez le fameux et très inspiré texte de François Jacob, où il expliquait que l'évolution avait procédé en bricolant et que donc la biotechnologie pouvait prendre le relais. Et donc la biologie, c'était le bricolage. Le bricolage, c'est le mot qui est détesté des programmeurs. D'accord ? Tous les programmeurs vous diront que tout ce qu'ils font, ils font tout ce que vous voulez, mais ils ne bricolent pas, ils programment. D'accord ? Donc ils sont dans la lignée de Gottfried Wilhelm Leibniz. Et l'ambition de la biologie synthétique, ça a été de dire que, justement, on allait vous programmer tout ce que vous voulez. Évidemment, on n'a pas les moyens conceptuels ni informatiques de vraiment dessiner des dispositifs et des procédés qui seront vraiment... Je crois qu'il y a un mot de Drundy qui est excellent. Il dit, mon avion va se poser, je ne veux pas de propriété émergente dans le train d'atterrissage. Donc c'était ça, ça résume tout. Donc en fait, il va falloir faire des choses comme les trains d'atterrissage. Alors c'est un peu confus dans la biologie de synthèse parce qu'on a aussi le iGEM Project où on a à peu près tout et n'importe quoi. C'est un peu ludique, c'est une méthode d'éducation, mais on n'est pas vraiment dans la programmation, on est plutôt dans la poésie enfantine, sympathique. Mais le programme de la biologie de synthèse, surtout MIT, c'est programmer des dispositifs dans le vivant. Bon. Et la xénobiologie, c'est pas seulement programmer, c'est programmer en temps réel. Donc un des objectifs de la xénobiologie, ça va être, si je crée un organisme artificiel, aujourd'hui aucun écologiste, aucun... Corpus ne nous permet de dire si j'introduis une espèce dans un écosystème, quelle est sa chance de l'emporter, etc. Bon, on n'en est pas là, notre connaissance du vivant n'est pas assez grande. Mais c'est l'objectif de la xénobiologie, c'est de simuler des trajectoires évolutives en présence ou en absence d'espèces naturelles qui seraient en compétition et de voir jusqu'où on peut aller trop loin. Je crois que j'ai presque fini. Non, ouais, celle-là, voilà. Donc une façon de se représenter ça, je crois que c'est hélas illisible. Donc ce qui est en abscisse, c'est le temps. Ce qui est en ordonnée, c'est, disons, le fitness, qu'on appelle le fitness, hein, de manière très, très, très brutale. Hein. Mais disons le taux de croissance, quoi, le taux de prolifération. Et le petit jeu auquel on joue, c'est la grosse flèche noire. C'est ce que je peux faire avec, les techniques de génie génétique. Hein. Je peux retirer un opéron, changer une voie de synthèse, introduire une nouvelle voie métabolique, etc. Et je peux le rendre irréversible, parce que si je fais une délétion au passage, ben ça ne reviendra jamais en arrière. Même à Lourdes, on ne voit pas ça. D'accord ? Bon. Donc une fois que je fais ce type d'opération, il y en a qui tuent, mais il y en a qui laissent les organismes vivants peut-être diminuer, mais capables de se reproduire. Et en fait, donc ça, on peut le programmer, hein, une altération irréversible. Et ensuite, ce que l'on peut faire, c'est se servir de la sélection naturelle pour essayer de relâcher la contrainte qu'on a introduite en introduisant délibérément un changement dans le métabolisme, le génome, etc. Et à ce moment-là, on a trois trajectoires évolutives possibles. Donc la première, c'est celle du milieu, c'est j'ai retiré quelque chose, je laisse après 1000 générations voir ce que devient une population isolée du sauvage originel, hein, d'accord ? Et voir ce qu'elle devient. Et si jamais je reviens au même fitness, disons en gros au même taux de prolifération, bah j'ai démontré que le trait que j'ai retirait génétiquement, bah, il était contingent. Parce que sinon, bah, j'aurais peut-être pas eu le même fitness. Donc on a démontré, par exemple, de cette manière-là, que la formulation des protéines, à l'amorçage, c'est les bactéries, il y a un trait qui... Il y a un formule au début des protéines chez les bactéries, les mitochondries et toute la famille bactérienne, mais pas du tout chez les archébactéries, ni chez les eucaryotes. Donc on peut se demander pourquoi. Donc on l'a viré chez colis. Colis, il perd quelque chose comme, c'est pas une petite chute de fitness, hein, c'est qu'il pousse quatre fois moins vite. Et ensuite, on observe qu'en l'espace de un mois ou deux mois, il récupère pratiquement le taux de prolifération normal. Donc nous sommes très, très enclins à penser que le groupe formule, il s'est trouvé piégé à un moment, mais qu'il est resté là comme on enfile des vieux chaussons, quoi, et que en fait, on aurait pu faire autrement. D'ailleurs, les eucaryotes ont montré qu'on pouvait le faire. Bon, d'accord. Il y a énormément de traits, dites-vous, que pratiquement tous les traits métaboliques qu'on a dans un organisme sont susceptibles d'être remaniés comme ça, parce que le réseau chimique de ce qu'on peut faire dans l'eau avec des réactions organiques est immense. Et donc, en fait, tous les acides aminés, toutes les bases, tout ce que vous voulez, même les bases canoniques et les acides aminés canoniques, pourraient être refaits autrement, en introduisant, par exemple, de nouveaux coenzymes, etc. Donc, il y a un immense champ d'exploration pour faire des organismes qui seront, on dit, rewired, metabolically rewired, ou pour avoir des bases qui seraient changées, des bases supplémentaires, des acides aminés en moins, etc. Alors, bien sûr, il y a deux autres trajectoires. Rassurez-vous, c'est ma dernière diapositive. Donc, je ne vais pas dépasser le temps imparti qui m'est imparti. Donc, l'autre, qui est sans doute le plus intéressant aujourd'hui, c'est la trajectoire du bas. C'est-à-dire que je fais un... Après une altération génétique et relaxation de la contrainte par la sélection naturelle, j'arrive à un organisme qui ne peut jamais entrer en compétition avec le sauvage. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que, mettons que je voudrais... injecter un vaccin vivant à mes enfants, bah, j'aimerais mieux partir d'un organisme dans la trajectoire du bas que les autres. Voyez. Pourquoi ? Parce qu'il serait intrinsèquement un loser. Voyez. Ce serait un loser built-in. D'accord, un truc comme ça. Donc ça, c'est intéressant et il y a beaucoup à explorer. Et il y a toute une discipline à regarder avec ça, en particulier en compliquant les voies métaboliques, etc. Il y a un très joli nom pour ça, c'est un mot allemand, on dit « Verschlimmbesserung ». Ça veut dire « disimproving », hein, c'est améliorer à l'envers. Et ça, il y a sans doute quelque chose de très intéressant. Et c'est surtout vachement bien, quand je parle de ça aux Américains, ils disent « c'est pour vous les Européens, faire des losers congénitaux, c'est votre truc. Nous, on va s'occuper de la courbe du haut, où on va faire des terminators, des upgraded evolvents. » D'accord ? Donc évidemment, ça, c'est la trajectoire la plus préoccupante. Parce que est-ce qu'on peut programmer des altérations génétiques telles que quand la sélection naturelle va les réajuster, on va faire des winners, d'accord ? Et donc, il est clair que, d'abord, il y a deux choses à dire à ce sujet-là. Premièrement, d'un point de vue scientifique, c'est le programme le plus intéressant. Pourquoi ? Parce que tant qu'on n'a pas réussi à démontrer que par une altération génétique, on arrivait à créer des créatures capables de battre le vivant à son propre jeu de la sélection naturelle, moi, je prétends qu'on n'a pas compris vraiment ce que c'était que l'évolution. Bon, d'un autre côté, d'un point de vue sociétal, je me demande même si, vous savez, il y a des gens, comment ils s'appellent, pièces et main d'œuvre. Vous connaissez ces gens-là à Grenoble. Donc ça, c'est vraiment ce dont on est en train de parler. Là, c'est le Frankenstein absolu. Hein. Mais c'est intéressant, donc il faudra le faire dans des conditions de confinement particulièrement rigoureuses, même absolues, j'oserais dire. Et d'ailleurs, le confinement est la grande question de la biologie synthétique pour procéder à tous ces exercices. Et ces notions-là sont nées en Europe, je tenais à le dire, hein, parce que maintenant, vous en avez plein les magazines américains. Toutes ces idées à propos du confinement, de tout ça, c'est né en Europe, dans le petit consortium de biologie synthétique, et ça a été jugé intéressant. Et comme vous le savez, tant qu'un truc n'a pas été énoncé aux États-Unis, il n'existe pas du tout. Mais je crois que nous sommes très bien armés en Europe pour faire progresser toutes ces questions. Je vous remercie et je serai... très content de répondre à vos questions.
Je pense que vous allez avoir des questions, oui, dans le fond, là-bas.
Merci. Et bonjour, je suis Yago Bonici, biologiste et informaticien. Je me demandais Comment vous articuliez à la fois du coup dans ce discours cet état de fait qu'on a du mal encore en biologie à avoir une théorie qui explique tout et à comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on peut rien prédire et on peut rien expliquer sur les composants naturels, et à la fois cette volonté de l'utiliser pour programmer au sens leibnizien, c'est-à-dire qu'on peut prévoir exactement tout ce qui va se passer et utiliser une base formelle. C'est-à-dire quand on programme au sens de Leibniz, on utilise un langage formel qu'on a designé nous-mêmes et dont on sait exactement comment il marche. La volonté de faire la même chose avec un objet naturel dont on sait qu'on ne contrôle pas, finalement, il y a une espèce de dissension qui est difficile à expliquer, non ?
Alors, oui, non, mais ce n'est pas qu'on a un pouvoir de prédiction qui est nul. C'est-à-dire qu'on tirera pile ou face avec chaque chose. Quand je vous dis tel codon veut dire leucine, j'ai raison presque tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire ? On connaît certaines règles. Mais si on connaît certaines règles de programmation, l'univers abstrait dans lequel cette programmation, un langage de programmation pourrait se déployer et mener à des configurations efficaces n'est pas énoncé aujourd'hui. Il y a un certain nombre de groupes qui s'y intéressent, mais on est loin de l'avoir fait. Mais ça ne signifie absolument pas qu'on ne peut pas se mettre à changer radicalement ou à inventer ou à ajouter certaines règles de notre cru. D'accord ? Par exemple, aujourd'hui, manipulation du code génétique, qui sont les plus faciles parce qu'on n'est pas dans le chemical space, on est vraiment dans la combinatoire des bases de signification des codons. Il est clair qu'il y a plusieurs groupes là qui ont changé des codons de sens, qui ont retiré des codons de sens, etc. Donc en fait, c'est la différence qu'il y a, si vous voulez, entre les règles du jeu d'échecs et les parties du jeu d'échecs. D'accord ? On connaît pas mal de règles, mais on n'a pas des heuristiques ou des programmes qui nous permettraient de faire une partie et de gagner contre Kasparov. C'est ça la différence. Et peut-être que le vivant lui-même, si on considère le vivant comme un joueur, d'accord, et que les règles du jeu sont connues de Leibniz lui-même, les parties qu'on a vues, l'évolution serait une partie ou une succession de parties, peut-être que le vivant lui-même ne sait pas qu'on peut roquer, ou que le vivant ne sait pas que la dame, elle se déplace aussi comme une tour. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, et mais tant qu'on ne le sait pas nous-mêmes,
Pardon ?
Tant qu'on ne le sait pas nous-mêmes, ça reste du bricolage en xénobiologie.
Oui, ça reste. Si vous voulez, on peut être systématique, on peut se poser des questions systématiques sur les types de mouvements, hein, pour reprendre la métaphore des jeux d'échecs, en disant est-ce que je peux changer telle chose de telle manière à ce qu'elle fonctionne de telle manière, et voir, on a un oracle tout trouvé, c'est la viabilité, ça s'appelle. Une fois que j'ai introduit, j'ai retiré un gène, j'en ai remis un autre, je peux voir si l'organisme est viable.
Bien sûr, c'est empirique.
Non, c'est pas empirique. C'est pas seulement empirique, parce qu'on peut être systématique dans cette façon de faire. Mais encore une fois, on peut ne pas être empirique, on peut être systématique et on peut être, je trouve pas le mot, mais vous allez le trouver parce que c'est votre partie. Empirique consiste à dire j'ai une intuition qui me fait faire la prochaine manip. C'est comme ça que considérait l'empirisme, en disant tant que je n'ai pas vu. Mais on peut procéder par palier en disant voilà toutes les façons systématiques que je peux avoir de changer quelque chose. D'accord ? Je prends le code génétique comme un Rubik's Cube. J'essaye ceci, ceci, ceci et cela. Ça passe, etc.
Mais ça, c'est quoi la différence avec du bricolage ?
Mais non, ce n'est pas du bricolage, parce que dans le bricolage, à aucun moment, vous n'avez pas de plan. Vous dites je trouve une roue, j'en fais un lustre. D'accord ? La disposition potentielle de la roue au moment où vous la trouvez, et l'association d'idées que vous faites avec un lustre ou je ne sais pas quoi, qui fait que vous vous mettez à essayer ça. On peut être plus systématique qu'attendre la sollicitation par une anecdote. Je vois que je ne vous ai pas convaincu, mais j'aimerais continuer cette conversation avec vous en privé.
Oui, Guillaume Lecointre, donc. Je voulais intervenir à propos de l'homo faber, comprendre le vivant par l'homo faber. Il y a tout de même une limitation à ce programme, c'est qu'il y a toute une partie du vivant qui ne peut être intelligible qu'à travers son historicité.
Oui, oui.
Et que l'homo faber, il aura du mal à le comprendre, oui, c'est ça. C'est le trajet de votre nerf phrénique, aucun ingénieur ne l'aurait jamais construit. En fait, c'est le trajet d'un bloc musculaire pendant 200 millions d'années qui fait que c'est un peu aberrant. Personne n'aurait osé construire un virage du tuyau à 180 degrés en sortie de pompe, c'est pourtant ce que fait la crosse aortique. Et ça, il y a de l'explication, elle est historique, et il y en a plein d'autres.
Oui.
Les difficultés de l'accouchement dans l'espèce humaine, enfin bref. Donc il y a toute une partie des capacités et des structures dans le vivant qui n'ont d'explication intelligible, pas en termes d'efficacité, parce qu'effectivement c'est pauvrement efficace, mais en termes d'histoire, des raisons historiques qui font que c'est comme ça. et pas autrement. Oui, mais... Et là, la contingence, elle intervient.
Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il n'y a pas que les... Justement, je pense que c'est là-dedans, c'est le trou dans lequel est piégée la réflexion darwinienne, c'est de dire, à chaque fois que j'ai une instance et que je pourrais récapituler toute l'historicité du processus, j'aurai une compréhension ultime. Mais vous ne trouverez pas un oiseau qui passe le mur du son, vous voyez ce que je veux dire? Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas accessible à des êtres vivants de voler plus vite que le son, on n'en sait rien. Donc en fait, vous ne pourrez pas simplement vous cantonner. Je crois que le naturalisme, d'une certaine manière, le naturalisme est une limite épistémologique à la compréhension du vivant. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on est amené justement à ne considérer que ce que l'on peut, et que ce que l'on peut observer, décortiquer, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs, je crois, qu'il y a cette frénésie d'aller chercher de la vie sur les exoplanètes. Parce que comme ça, on pourra rester des naturalistes. Vous comprenez ? Et c'est pour ça que je crois qu'il faut se dire que les aliens, on va les faire sur Terre et on ne va pas aller les chercher... dans d'autres galaxies.
Oui, parce qu'il faut être juste avec le naturalisme. Son programme, c'est d'expliquer le monde vivant tel qu'il est.
Voilà.
Mais il ne prétend pas faire autre chose.
Voilà, tout à fait.
Donc, ce qu'il fait, il le fait bien. Voilà, après, si on veut expliquer un autre monde ou explorer des territoires qui n'appartiennent pas au naturalisme, il ne faut pas accuser le naturalisme. Il faut simplement proposer un programme nouveau. Mais sans nécessairement se fonder sur les prétendues limites du précédent.
Non, c'est parce que
le monde qu'on a observé, c'est celui-ci.
Pardon. Non, mais je suis de votre avis.
Très bien, merci beaucoup. Merci.
Alors, le prochain intervenant est Pierre Pitrou, qui est chargé de recherche au laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France. Oui. Il est également directeur adjoint de la pépinière interdisciplinaire CNRS-PSL, qui s'intitule Domestication et fabrication du vivant. Il est également co-responsable de l'équipe Anthropologie de la vie et des représentations du vivant. Et son exposé va porter sur les processus techniques et les processus vitaux, une proposition pour l'anthropologie de la vie.
Bien, merci beaucoup. Merci à tous les organisateurs de ce colloque et merci pour cette invitation. Je trouve que c'est autour d'une question très générale une parfaite occasion de pouvoir réfléchir dans un cadre interdisciplinaire. Avant de commencer à vous montrer mon PowerPoint, je vais commencer moi aussi par une image qui va nous décentrer, non pas sur un plan historique, comme on l'a vu avec les deux précédentes présentations, mais à partir de données ethnographiques. Puisque pour apporter une petite précision à ce programme excellemment bien fait, je suis dans un micro-panel qui s'appelle Biologie de synthèse, mais je ne vais pas vous parler de biologie de synthèse puisque je ne suis pas spécialiste en biologie de synthèse. En revanche, je vais, comme les deux autres présentations, cela dit, vous montrer comment le vivant peut être compris et conçu à partir d'une réflexion sur la technique et sur la technologie. Et pour ce faire, je vous montre très rapidement donc une image que je vous expliquerai par la suite. Bon, je ne sais pas s'il y a le son, mais c'est pas nécessaire. Donc, je peux déjà vous dire que nous sommes au Mexique, au sommet du mont Sempoaltepecle, et que le maire d'un village, une communauté... paysanne villageoise est en train de faire un sacrifice de volaille pour demander de l'aide à une entité non humaine qui s'appelle celui qui fait vivre. Donc c'est à partir de cette expérience que ma réflexion sur le vivant et surtout sur la vie entendue comme une fabrication a émergé. Donc je tenais quand même à mentionner ce point d'origine pour expliciter à partir de quelle méthodologie je pense intéressant d'essayer d'élaborer une proposition comparatiste. Alors, il faut que j'appuie visiblement sur la flèche de droite. Donc voilà, plutôt que la biologie de synthèse, peut-être que la question qui m'intéresserait davantage serait la question de la fabrication du vivant et d'essayer très brièvement de vous montrer quelles sont les ressources et les méthodes de l'anthropologie qui fondent ces connaissances sur des enquêtes ethnographiques. Donc d'essayer de réfléchir à ce que peuvent apporter ces deux méthodes pour mieux comprendre cette question qui est la question de la vie et du vivant. Je tiens à préciser que dans un débat comme celui-là, dans un dialogue interdisciplinaire comme celui qui nous occupe durant ces deux jours, Le rôle de l'anthropologie n'est nullement cosmétique. Il ne s'agit pas de faire un inventaire un petit peu arbitraire et anecdotique des différences dans les conceptions du vivant. L'enjeu est véritablement épistémologique et ontologique. Il consiste, comme on le fait en faisant de l'histoire des idées, à mettre en perspective les concepts avec lesquels nous pensons le monde et plus profondément d'essayer de voir que la façon que nous avons d'organiser le monde en Occident au XXIe siècle est une manière qui demande elle-même à être comparée avec d'autres manières de penser le monde. Donc cette enquête ethnographique que je ne vais pas décrire ici m'a amené lors d'un doctorat il y a maintenant une dizaine d'années, enfin commencé en 2005, à mener une enquête de 2 ans parmi les populations mirées et à étudier les pratiques sacrificielles qui sont réalisées dans différents contextes agricoles, politiques ou thérapeutiques. Alors évidemment, un discours un peu rapide sur la question du sacrifice pourrait nous conduire à dire oui, le sacrifice nous permet de voir une théorie de la vie à travers l'observation d'un double processus par lequel on met à mort un être vivant et processus par lequel des êtres vivants consommant cet animal vont eux-mêmes continuer à vivre. Mais telle n'est pas l'approche qui a été privilégiée dans mon travail, puisqu'en traduisant les prières énoncées en langue indienne, les prières énoncées en mirhé, je me suis rendu compte que mes hôtes, systématiquement, s'adressaient à une entité qui s'appelle « celui qui fait vivre ». Et progressivement, je ne rentrerai pas dans les détails ici, j'en suis venu à réfléchir aux différentes actions techniques qui étaient attribuées à cette entité non humaine. Par exemple, pour faire croître le maïs, on lui demande de distribuer la pluie. Pour renforcer l'enveloppe corporelle d'un enfant, on lui demande de faire cuire l'enveloppe corporelle de cet enfant, comme un potier le ferait pour une poterie. Et progressivement, en recensant les différentes catégories d'actions techniques qui étaient imputées à cette entité non humaine, j'en suis venu à proposer que ces actions dessinaient les contours de ce que j'ai appelé une théorie de la vie. Alors, à partir de ce cas d'étude, j'ai commencé à élaborer quelques remarques plus générales en constatant déjà que chez les mirhés et au-delà, et on en a eu plusieurs preuves hier, il est pertinent de distinguer le fait d'être en vie et le fait de faire vivre, et peut-être le fait de ce qui renvoie peut-être au fait de distinguer les vivants, entendu comme une multiplicité d'êtres et de processus, et la vie qui pourrait être entendue comme un ensemble de causes plus ou moins personnifiées. Une autre remarque sur laquelle je n'insisterai pas ici a été de considérer et de remarquer, en lisant d'autres textes ethnographiques, que les théories de la vie se divisaient toujours au moins en 3 directions, des théories de l'animation, des théories de la fabrication et des théories de l'interaction. Et on a eu beaucoup d'exemples depuis hier. Penser la vie nous oblige en quelque sorte à avoir toujours à l'esprit cette pluralité. Et je vais peut-être focaliser davantage aujourd'hui sur la question de la fabrication et de la manière dont processus techniques et processus vitaux peuvent s'éclairer mutuellement. De ce point de vue, je dois dire que la première présentation de Michel Morange était vraiment fascinante parce que je pense qu'elle propose beaucoup d'échos. Enfin, cette présentation va permettre d'avoir beaucoup d'échos avec la tradition historique qui a été évoquée. Dans le projet comparatiste qui a été engagé, dans un premier temps, la perspective a été de comparer les sociétés traditionnelles entre elles pour essayer de voir comment on pouvait documenter l'interaction entre les conceptions du vivant les conceptions du vivant comme des artefacts et des pratiques humaines visant à agir sur les êtres vivants comme si elles étaient des artefacts. À un niveau plus large, cette enquête a conduit à essayer de réfléchir à la possibilité théorique, conceptuelle, d'engager une comparaison avec des pratiques contemporaines qui elles-mêmes, on en a eu un exemple il y a un instant avec Philippe Marrière, qui elles-mêmes considèrent que la vie peut être saisie comme un processus de fabrication à telle enseigne que les humains peuvent eux-mêmes progressivement devenir les fabricateurs. Donc l'enjeu est de suivre cette situation de circularité qui a été mentionnée aussi tout à l'heure, entre le fait que l'activité technique est une métaphore pour penser la vie et le fait que les êtres vivants peuvent être pensés comme des artefacts. Alors pour développer ce travail qui évidemment dépasse une réflexion solitaire et une démarche individuelle comme elle peut l'être sur une enquête de terrain, il y a eu plusieurs programmes collectifs qui ont été initiés, en particulier un qui a été initié par la mission pour l'interdisciplinarité, par Anne Renaud et Sandra Logier, que je tiens encore une fois à remercier ici, qui ont permis d'initier une réflexion interdisciplinaire sur les définitions du vivant et du non-vivant, afin de réfléchir à l'articulation entre les formes vivantes et les organisations inventées par les humains pour vivre avec. Et un des principes qui nous a permis de dialoguer a été précisément de considérer qu'au lieu de parler de la vie en des termes généraux ou abstraits, il y avait une pertinence à documenter les types d'actions, traditionnelles ou contemporaines, que les humains peuvent exercer sur les êtres vivants. L'enjeu est évidemment, face à un phénomène aussi protéiforme et polysémique, de pouvoir élargir le cadre analytique sans dire n'importe quoi et en maintenant une forme de rigueur dans la manière de créer des comparables, pour employer une notion qui est élaborée par Marcel Etienne. Rappel un petit peu pédagogique concernant l'ethnologie, l'ethnographie et l'anthropologie, puisqu'on n'est pas forcément spécialiste de ces disciplines. Puisque je crois, ça a été dit ce matin, que pour parler d'interdisciplinarité, évidemment, il convient de bien préciser les ancrages disciplinaires qui sont les nôtres, et en l'occurrence, de bien distinguer l'ethnographie, qui est l'étude d'un cas particulier dans une société qui peut être une société traditionnelle, mais aussi un laboratoire de sciences, l'ethnologie qui décrit une montée en généralité visant à comparer des sociétés similaires, deux villages mexicains, deux sociétés de chasseurs d'Amazonie ou deux laboratoires de sciences, et l'anthropologie, quant à elle, si on suit la définition qu'en propose Lévi-Strauss ou Philippe Descola, consiste à comparer des sociétés qui sont dissemblables. Alors, au sein du laboratoire d'anthropologie sociale auquel j'appartiens, nous avons créé avec Dimitri Karadimas, un collègue anthropologue, une équipe qui s'appelle Anthropologie de la vie et des représentations du vivant, dont l'objectif précisément est d'essayer d'étudier ou d'expliquer les variations dans l'espace et dans le temps des conceptions de la vie à partir d'enquêtes ethnographiques, mais aussi historiques, qui sont menées à la fois dans le monde occidental et dans le monde non occidental, dans les sociétés traditionnelles et les sociétés non traditionnelles. Une des propositions de ce cadre comparatiste est d'essayer de surmonter un certain nombre de dichotomies, donc vous aurez compris, entre l'Occident et les populations non occidentales, entre l'archaïque et le moderne. Dans le champ disciplinaire de l'anthropologie, l'enjeu est de faire converger, ou en tout cas dialoguer, des études ou des recherches qui sont menées dans le champ de ce qu'on appelle les STS, Science and Technology Studies, et des enquêtes qui sont menées dans les sociétés non occidentales. Et la proposition méthodologique qui est formulée est une approche d'inspiration pragmatique qui propose d'aborder la vie à travers des catégories d'action ou l'agency, agentivité en français, agentivité, de certains êtres. Et la proposition qui est très similaire à celle qui a été faite finalement, avec peut-être certaines différences avec les deux présentations précédentes, consiste à dire qu'il y a une vraie pertinence et fécondité à étudier les conceptions de la vie à travers les techniques intellectuelles, matérielles, que les humains développent pour interagir avec les êtres vivants. Alors pour s'appuyer, pour élaborer ce programme, la proposition est de s'appuyer sur les concepts de l'anthropologie des techniques pour étudier ce que j'appelle des configurations agentives et l'imbrication entre les processus vitaux et les processus techniques. Alors, Je sais pas, j'ai pas calculé le temps, 10 minutes à peu près. Alors, cette approche pour faire un décentrement par rapport à la question qui nous est posée aujourd'hui, alors question évidemment qui est fort bien posée en la mesure où nous a permis de nous réunir, mais qui, on peut aussi le dire, nous oblige à peut-être apporter un regard critique, puisque qu'est-ce que la vie induit un type de réponse qui n'est peut-être pas le plus satisfaisant, dans la mesure où c'est une question d'essence qui nous est posée, nous invitant à repérer un ensemble de traits caractéristiques, et on voit bien que l'enquête scientifique échoue en fait à donner une liste totalement satisfaisante de ces traits caractéristiques. Donc peut-être que la question d'essence n'est pas tout à fait adéquate puisqu'on a affaire à un phénomène en devenir. Devenir, on en a vu de multiples manifestations depuis deux jours. Devenir qui se manifeste dans les individus ou chez les individus, entre eux. Aussi au niveau des espèces, on a encore eu un exemple ce matin, et un devenir aussi qui dépend des nouvelles techniques, des nouvelles méthodologies ou des nouveaux paradigmes qui sont développés par les humains, tant et si bien qu'ils découvrent de nouvelles formes vivantes, mais aussi de nouvelles potentialités qu'ils observent chez ces formes vivantes. L'autre, je dirais, décentrement qu'on pourrait proposer, décentrement critique par rapport à la question « qu'est-ce que ?», c'est cette fois-ci en insistant sur la vie, en reconnaissant, comme je crois que c'est assez bien connu, mais c'est jamais inutile de le dire, que l'idée que la notion de vie a une histoire dans l'histoire de la pensée, Foucault l'a bien expliqué, elle apparaît à un moment donné comme un concept transversal qui permet d'organiser une multitude de phénomènes qui auparavant n'étaient pas forcément mis les uns avec les autres. L'anthropologie de la vie dresse le même constat sur un axe synchronique et il convient de se défaire donc de l'idée que la vie serait un concept qui serait immédiatement opératoire pour décrire la totalité des relations que les humains, aujourd'hui et par le passé, établissent avec le vivant. De ce point de vue, le projet d'anthropologie de la vie s'inscrit d'une façon explicite et j'en profite pour exprimer la gratitude vis-à-vis de ce travail. Donc, s'inscrit dans le sillage du travail de Philippe Descola qui a publié il y a 10 ans maintenant « Par-delà nature et culture », ouvrage dans lequel précisément Descola montre le caractère historique de la notion de nature qui nous semblait totalement naturelle, qui en fait n'est qu'une variante possible au sein des cultures humaines présentes et passées. Pour continuer à dialoguer ou à critiquer la notion l'idée qu'on puisse trouver un principe d'unicité, je pense qu'il est peut-être heuristiquement plus judicieux, et on en a eu aussi un exemple hier avec la première présentation qui faisait référence à Claude Bernard, plutôt que de parler de la vie, il s'avère peut-être plus rigoureux dans un premier temps de parler de processus vitaux, et plus précisément de s'appuyer sur la diversité des processus que les humains repèrent dans l'environnement qui les entoure. Alors, il n'est pas question en cela, en désignant les processus vitaux tels que la croissance, la régénération, la reproduction, la sénescence, la mort, etc. Il n'est pas question, évidemment, de dire que la perception de ces phénomènes est absolument universellement similaire. Il s'agit, d'une manière provisoire, méthodologique, de désigner des éléments, des phénomènes du monde que les humains dans la majeure partie des situations, observe et cherche à expliquer, mais ça ne veut pas dire que les explications ou les perceptions soient essentiellement similaires. Au contraire, les sciences sociales ont documenté depuis longtemps une grande multiplicité dans les systèmes explicatifs développés par les humains pour rendre compte de ces processus vitaux. Nous sommes face à une situation dans laquelle il y a une sorte de contraste entre une visibilité, sauf les cas limites dont on pourrait évidemment discuter, mais les processus vitaux sont en général très visibles, mais les mécanismes internes, et on en a parlé hier avec Claude Bernard, les mécanismes internes demeurent en général soustraits au regard humain, tant et si bien que les humains développent dans toutes les sociétés des inférences plus ou moins explicites pour en rendre compte ou les prévoir. J'insiste pas sur le rôle de l'analogie dans ces systèmes-là, mais l'intérêt est de considérer que l'analyse de la variation culturelle peut s'appuyer à la fois sur la perception des processus vitaux et sur les moyens mis en œuvre pour en rendre compte dans les différentes sociétés. Et le fait que ces inférences, même si une recherche théorique est évidemment présente dans toutes les sociétés humaines, enfin en tout cas, c'est une possibilité qu'on ne doit pas exclure, on doit aussi prendre en compte le fait que les inférences développées par les humains sur les processus vitaux dépendent en général d'impératifs techniques ou pratiques et qu'ils sont enchâssés en quelque sorte dans des pratiques que l'on peut documenter. Telle est la raison pour laquelle je propose d'une manière heuristique, pour établir une comparaison entre différents contextes culturels, je propose non pas d'étudier la vie ou les processus vitaux, mais les configurations agentives, c'est-à-dire à la fois les processus vitaux tels qu'ils se manifestent dans un environnement, les actions que les humains peuvent exercer sur eux pour essayer de les influencer, de les prévoir ou de les contrôler, mais aussi les actions qui sont réalisées par des agents non humains, qu'ils soient des dieux, qu'ils soient la nature ou qu'ils soient des propriétés, qu'elles soient des propriétés physico-chimiques. Encore une fois, c'est un cadre analytique pour engager une description. Donc j'avance un petit peu pour terminer en deux ou trois diapositives. Ce qui est important de voir derrière ou en même temps que cette question de la configuration agentive, c'est que nous n'avons pas affaire à simplement une distribution d'agentivité entre humains et non-humains. Ce qui est en jeu, c'est aussi le fait qu'à travers ces configurations agentives, on peut aussi documenter une certaine évolution, une certaine dynamique, et en particulier le fait que l'enquête, et en particulier en ethnologie et en anthropologie, doivent se focaliser sur la façon dont les agents impliqués dans une configuration agentive peuvent coordonner leurs actions ou sur la façon dont ils peuvent enchaîner différentes séquences pour parvenir à un résultat envisagé. Donc, il y a plusieurs collègues avec lesquels je collabore dans le cadre de l'équipe. Ludovic Coupaille, qui a travaillé sur la culture de l'igname en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Fabien Milianovic, qui travaille sur les chaînes sociotechnologiques ou sociotechniques dans les biobanques. Et Noémie Merlamponti, qui a fait une thèse en travaillant dans les laboratoires de cellules souches. Et dans tous ces cas de figure, il est intéressant d'analyser la façon dont les humains vont coordonner leurs actions sur et avec les êtres vivants, selon un certain enchaînement séquentiel. Et en fait, on dispose en fait avec cet instrument méthodologique qui est à la fois celui de la configuration agentive et de la chaîne opératoire, eh bien, on dispose d'une possibilité, peut-être pas de comprendre évidemment tout ce qui se passe, mais au moins de pouvoir organiser une diversité de pratiques dans un cadre conceptuel qu'on essaye de rendre robuste. Et de ce point de vue, évidemment, la notion de processus sert, pour des raisons que je ne vais pas développer ici, mais de point, de concept opératoire qui permet de créer un double éclairage, puisque les processus techniques permettent de comprendre les processus vitaux, de la même façon que les processus vitaux permettent de comprendre certains processus techniques. Et ça va être en fait une conclusion à laquelle je souhaite aboutir, c'est de dire que par-delà l'opposition être vivant et artefact, ou être vivant et être non vivant, il est intéressant de dresser, comme on l'a fait lors d'un colloque organisé au musée du Quai Branly il y a 3 ou 4 ans, il est intéressant de penser la pluralité des imbrications entre processus vitaux et processus techniques, pour penser à la fois la façon dont sont fabriqués, entre guillemets, ces deux types d'êtres, pour penser les configurations agentives anciennes ou contemporaines, pour penser aussi les différents types d'hybridation et de transformation, en particulier pour essayer d'envisager cette imbrication technique et vitalité dans un cadre cyclique qui ouvre sur une écologie. Donc pour synthétiser, l'anthropologie de la vie telle qu'elle est proposée ici se veut pragmatique, processuelle, interactionnelle, systémique et écologique dans la mesure où elle cherche aussi à penser la vie comme processus dynamique ouvrant aussi sur des interactions à grande échelle, et elle est évidemment comparatiste. Et pour répondre à la question vie et technique, qu'est-ce que la vie ? Je dirais que c'est une question technique, dans le sens où elle nous oblige, à mon avis, évidemment, à déterminer un contexte culturel et technique à partir duquel les humains se la formulent. Alors, qu'est-ce que la technique ? Je n'ai pas eu le temps, là, de le présenter dans le détail, mais il faut éviter, évidemment, de réduire la technique à la technologie. Au contraire, il faut voir la technique comme un monde ou comme un univers dans lequel sont mobilisées à la fois des techniques mentales, des techniques du corps, des techniques outillées, des techniques machiniques. Autrement dit, il y a tout un ensemble de façons d'intervenir sur le monde que les humains ont développé au cours des temps. Et c'est cette diversité-là qui est intéressant aussi de comparer à la fois sur un axe synchronique et sur un axe diachronique. Donc, et ma conclusion est finalement la même que celle de Michel Morange aussi, concernant la possibilité de mimer le vivant ou pas. Dans le fond, on voit bien que lorsqu'on entend parler du biomimétisme, on a deux façons d'envisager la technique. Soit la technique crée une sorte de monde totalement artificiel et signe le pouvoir des humains, le pouvoir de rupture des humains, mais il est aussi possible d'envisager une continuité, la technique comme, alors peut-être que là c'est par exemple l'exemple de François Jacob qui parle de bricolage évolutif est assez illustratif, la technique peut être aussi vue comme une sorte de prolongation d'un mouvement naturel qui est présent chez tous les êtres vivants. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
En tout cas, merci pour cette conclusion qui va, je pense, vous aider à faire le lien avec la seconde partie de la session qui vient ensuite. Je pense qu'il va y avoir des questions dans la salle. Bon, apparemment, l'exposé était très clair et suffisait à lui-même. Ou alors, nous sommes très fatigués, nous avons besoin de prendre un petit café pour nous monter. Ah, pardon.
Merci. La perspective de la capacité technique comme constitutive du vivant, des agents biologiques, est une très intéressante piste. D'abord, on sait maintenant, quand on regarde des espèces non humaines, mais des primates, pas seulement des primates, que d'abord, tout ce qu'on avait défini comme des critères d'humanité, sont tous transgressés, qu'on trouve des exemples un peu partout. Mais il y a aussi tout ce qui a à voir avec l'apprentissage. Hein. Je ne sais pas, ce n'est pas un mot que j'ai entendu, mais peut-être que... En fait, tout ce qui a à voir avec l'apprentissage... Le bricolage, c'est vraiment quelque chose qui nous a piégés, je crois. Parce que, bien entendu, les bricoleurs sont très efficaces, mais ça dissimule quelque chose qui est beaucoup plus profond et qui a à voir avec la technique, comme vous l'avez dit, qui est ce que c'est que... aller dans l'adjacent, d'accord, de ce qui est donné par spontanément comme ça, la forme des cailloux, etc. Avec quelques éclats, j'en fais un couteau pour dépecer les animaux, etc. Et toute cette conception là, je serais curieux de savoir ce que vous avez évoqué ça. Vous avez fini par une sorte de pirouette en disant peut-être qu'il y a une espèce de sélection de la capacité technique dans toutes les espèces. Vous l'avez bien compris? Est-ce que vous pouvez élaborer ?
Non, mais enfin, on peut, selon le niveau auquel on se situe, mais là, je me situais vraiment dans la droite ligne du texte de François Jacob, de dire que dans le vivant, il y a déjà une façon de retravailler les données matérielles pour adapter à différentes fonctions des organes. Donc, c'était un petit peu dans cette perspective-là. Alors après, évidemment, l'éthologie nous apprend aussi que les animaux développent eux-mêmes évidemment des techniques du corps. Donc déjà, de ce point de vue, c'est très difficile de ne pas avoir un être vivant qui ne soit pas en quelque chose, ne serait-ce par sa perception du monde, dans un rapport technique vraiment au sens très large. Et puis on sait qu'il y a aussi des actions outillées chez certains primates. Donc effectivement, là, on a peut-être un cadre qui permet de penser dans l'usage technique du corps et aussi d'artefacts, une vision qui permette non pas d'opposer vivant et artefact, mais de penser leur continuité.
Non, mais vous voyez comment le bricolage nous piège, parce que justement, quand un bricoleur bricole, il n'est pas en train de jeter des trucs en l'air et de voir si passivement il retombe quelque chose d'intéressant. Parce qu'il y a ça aussi dans le texte de Jacob.
L'enjeu, c'est d'éviter l'idée qu'il y a une finalité qui serait poursuivie globalement. Donc c'était un petit peu ça l'enjeu. Alors après, à mon avis, l'intérêt n'est pas de se caler sur une modalité de la technique. Au contraire, c'est d'envisager, et c'est, je pense qu'on a eu des exemples aujourd'hui, la diversité, depuis le bricolage, l'ingénierie, l'artisanat, diversité des techniques humaines, qui sont aussi des techniques sur le vivant, et d'essayer d'en faire une sorte d'enquête systématique. Et là, je pense qu'il y a un programme de recherche qui est vraiment très, très judicieux. Et je pense que vous rentrez dans mon enquête de terrain après vous avoir écouté. Enfin, je le savais déjà, mais...